2-6-9. François Clos.
Bonjour Monsieur Christian Bûcher.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté ce tête-à-tête ce matin sur Europe 1. Vous qui êtes le directeur du Centre de la Mer à l'Institut catholique de Paris, vous qui avez publié ce livre référence, La grande histoire de la mer, aux éditions Le Cherche Midi, préfacé par Jean-Louis Etienne. On voulait vous entendre, Christian Bûcher, ce matin sur Europe 1. Nous avons eu deux informations, allez, on va dire contradictoires ces dernières semaines. 2020 restera dans l'histoire de l'humanité comme l'une des années les plus chaudes, témoignage du réchauffement climatique endémique, mais 2020 a aussi été l'année où l'économie, par contrainte, s'est arrêtée totalement et que les émissions de gaz CO2 si destructrices ont été très limitées. Est-ce que vous qui observez, Christian Bûcher, la mer, les océans au quotidien, est-ce que la mer a tout simplement réagi à ces deux données que j'évoquais ?
Écoutez, c'est difficile à dire en ce qui concerne les émissions de CO2, mais là, vous mettez quand même le doigt sur, je dirais, la préoccupation majeure qu'on peut avoir sur les océans. On parle souvent, vous savez, d'état de santé de la mer, et on a bien raison, parce que sans la mer, on ne passerait pas. La mer, vous savez, on pourra en parler, elle contient, c'est ce qu'avait montré le Cornell de la mer il y a 10 ans, on n'a pas dit la totalité, mais la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux durable, que je qualifierais de désirable. On dit souvent, lorsqu'on parle des états de santé de la mer, on pense au continent de plastique. Alors, disons un petit mot là-dessus. Il n'y a pas un continent de plastique, mais au dernier pointage, on a 5 continents de plastique. Vous en avez 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. Et si vous voulez en chercher un autre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en Méditerranée, dans toutes les mers, y compris fermées, bien évidemment, vous avez des phénomènes de courant, des phénomènes de gyre qui fait que toutes les particules légères se retrouvent. Donc, ça montre l'ampleur, si vous voulez, de la pollution, en sachant que ce que l'on a là, ce n'est que 20%, 80% sont au fond. Il y a bien sûr d'autres problèmes liés au fait qu'une partie dans le monde des eaux usées repartent à la mer sans traitement. Alors vous allez me dire, la mer c'est grand, la mer c'est 72% de la surface du globe, mais ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est que les poissons ils se reproduisent pas forcément en pleine mer, ils vont se reproduire sur les eaux littorales à cause de la photosynthèse, parce que c'est là où les meilleures conditions de reproduction, et c'est précisément cette bande littorale que nous, humains, nous agressons, à travers ces eaux usées que nous rejetons. Il y a bien sûr les marées noires, mais les marées noires, si vous voulez, c'est 2,5% seulement de la pollution des mers. Donc on voit à quel point nous frappons la mer là où ça lui fait mal. Et par rapport à votre question sur le CO2, on parle beaucoup, on l'évoquait, des continents de plastique, mais on ne parle jamais, parce que c'est peut-être moins imagé, ça ne nous fait pas penser au tatin, c'est l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est la menace majeure. Et ça résulte directement de nos émissions de CO2. Pourquoi ? Parce que la mer nous rend un service tout à fait incroyable. Elle absorbe entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, ce serait plutôt aux alentours de 37%. Ce qui veut dire que si la mer ne nous rendait pas ce service, on serait malheureusement accoutumé depuis bien plus longtemps au masque que nous devrions porter. Sauf que depuis que la mer, et notamment avec la majoration depuis la révolution industrielle, depuis que la mer absorbe autant d'émissions de CO2, les mers, l'océan mondial, si vous préférez, s'acidifient. Et cette acidification, bien sûr, ça ne se voit pas, il n'y a pas d'image, mais tous les scientifiques sont unanimes, et le laboratoire britannique, peut-être la Royal Society britannique, et peut-être même le laboratoire au monde le plus en pointe sur cette question, et je vous promets que ce ne sont pas du tout des intégristes de l'écologie, ils montrent clairement à quel point, à l'horizon de 2100, c'est une véritable rupture d'équilibre qui peut se produire sur tout un tas de coquillages comme les théropodes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en calcaire. Et vous savez très bien, on a tous des souvenirs de nos cours de physique, on voit très bien que le calcaire avec l'acide ne se marie pas. On parle souvent des coraux. Les coraux, on sait qu'ils blanchissent ici ou là. Mais vous savez, c'est jamais simple les choses, c'est jamais du monocausal en quelque sorte. Bien sûr, il y a le réchauffement qui fait que les coraux se réchauffent. Mais il y a aussi l'acidification. Les coraux sont en calcaire, et une acidification sur des coraux déjà fragilisés par le réchauffement, vous imaginez l'impact. Et quand on parle de coraux, c'est quasiment 30% des habitats marins. Donc oui, il faut véritablement faire attention. Alors c'est très intéressant votre question, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était les accords de Paris.
Elle est d'autant plus intéressante que je n'ai posé pour le moment, mon cher Christian Bûcher, qu'une seule question. Mais je vous écoute et j'imagine que nos auditeurs sont dans le même état d'esprit. Allez, je vous ai coupé juste une seconde, c'est très intéressant, disiez-vous.
Ce qui est très intéressant, c'est que les accords de Paris, ce n'est pas si vieux. Mais vous savez, les océans étaient quasiment les grands absents avant les accords de Paris. C'est-à-dire qu'on était encore à une phase où on débattait est-ce que l'homme est responsable ou pas du réchauffement climatique à 0, 50 ou 100%. Mais ça, c'est pas la bonne question. C'est comme le débat sur le sexe des anges, vous savez, à l'époque médiévale, qui est toujours une question qui n'a pas été tranchée. Si vous interrogez les océans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les océans ne vont pas vous dire c'est l'homme responsable à 0, 50 ou 100% du réchauffement climatique. Mais ils vont vous dire nous, océans, on n'en peut plus d'absorber vos émissions de CO2. Et sous cet impact, on a beau représenter 72% de la surface du globe, on est en train de connaître une rupture d'équilibre. Alors rassurez-vous, l'océan, il n'y a pas de problème, je suis un environnementaliste depuis très longtemps, de la première heure, mais l'océan va continuer, c'est l'humain à travers tout ce que l'océan peut receler. Il faut que dire un tout petit mot sur ce qu'est l'océan. Imaginez qu'on a simplement vu, de nos yeux vus, que 5% du fond des mers. Il y a 15 ou 20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. En fait, aujourd'hui, on n'en est plus là. Avec le développement de ce qu'on appelle la métagénomique, vous savez, la métagénomique, c'est que ça consiste à faire un séquençage, non pas de gènes isolés, mais de gènes croisés. Les microbiologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas plus de 3% probablement, je dirais, de la microbiologie marine.
Bon, et ça, c'est une source d'espoir absolument formidable.
Mais bien sûr, toutes les molécules se trouvent dans la mer. Alors, c'est là où vous comprenez que saccager la mer, c'est un monde, tout le monde est d'accord, c'est un scandale écologique, mais c'est un non-sens pour l'humain. C'est un crime. Pour l'homme, pourquoi ? Pour montrer que ce n'est pas un rêve fou de quelqu'un qui veut vous faire croire à l'avenir. Si vous regardez déjà dans le rétroviseur derrière, le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. La dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine, émane du milieu marin. On va avoir très prochainement tout un tas d'antidouleurs qui auront plus d'impact probablement que certains antidouleurs sur le marché.
Il n'y a pas l'anti-Covid au fond de la mer, Christian Bucher ? Vous l'avez pas trouvé encore ?
On en a parlé, alors non, pas encore, mais rappelez-vous, on a un ver qui n'est pas un ver de terre, mais un ver marin dont on avait parlé à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une capacité d'oxygénation supérieure. Donc c'est évident que c'est au fond des mers, dont nous sommes nous-mêmes issus, que nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin.
Il y a des recherches qui sont absolument, fascinantes. J'ai appris qu'on étudiait le mouvement des poissons qui peuvent nous donner des leçons pour les énergies de demain, qu'on utilise la peau de requin pour limiter l'usage des produits chimiques. Ce sont des recherches très avancées dans ces domaines.
Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça suppose d'avoir un autre regard face à la mer, face au monde du vivant. C'est-à-dire plutôt que de détruire, de prendre ce qu'on a besoin, quand on regarde le monde de la mer, on s'aperçoit qu'il est en avance sur nous en termes de recherche et développement. Vous l'avez dit par rapport au requin. Le requin génère une substance qui sert d'antifouling. Vous savez, l'antifouling, c'est ce qu'on met sur le revêtement des coques des navires pour empêcher, si vous voulez, au plancton de se mettre dessus. Le requin génère un antifouling qui est le plus puissant des antifoulings qui existe aujourd'hui, que nous ne savons pas encore faire, et qui est efficace et compatible avec l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un autre regard. Si vous regardez de manière émerveillée et presque aimante, je dirais, la nature, vous allez vous rendre compte qu'elle est en avance sur nos procédés les plus sophistiqués. Prenez par exemple le byssus de la moule, c'est cette partie avec laquelle la moule se colle au rocher. Eh bien, c'est l'une des plus puissantes colles qui existent. Ça marche dans l'eau et même dans l'eau de mer, et etc. On peut multiplier comme ça les exemples à l'infini. La nature est en avance sur nous. C'est un formidable livre qui est ouvert à nous, pour peu qu'on ait ce regard émerveillé. Et ça va nous permettre de faire des bons technologiques considérables, que ce soit au niveau des énergies marines renouvelables, au niveau de la santé, au niveau de la bien-être, au niveau, si vous voulez, de l'alimentation, je dis bien l'alimentation, même au niveau peut-être des eaux minérales, la mer est notre solution. Ce n'est pas uniquement un lieu pour faire trempette, si vous voulez, 3 ou 4 semaines d'été, c'est le réservoir de notre avenir, c'est ça qui permet de regarder l'avenir avec optimisme. Imaginez qu'en 2025, puisqu'on va changer de cap bientôt, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande de 75 km de large, sur la base de 8 milliards. Et au pic démographique, en 2050, sur cette même bande littorale de 75 km de large, ce sera 80% de la population mondiale qui va se trouver concentrée. C'est ce qui nous fait dire, sans la mer, on ne passe pas. La mer, il y a toutes les solutions, mais à condition de la sauvegarder. Attention, comme le dit Jacques Perrin, nous n'aurons pas d'océan de rechange.
Merci de ce beau message, Christian Bûcher, que vous nous lancez ce matin, qui pourrait être l'un des slogans de l'année à venir 2021. Passionnant entretien, on aurait envie de vous entendre pendant des heures, donc on vous invitera un jour pendant des heures sur Europe 1, c'est promis. Christian Bûcher, je renvoie à votre dernier livre, La grande histoire de la mer, préfacé par Jean-Louis Etienne, aux éditions Le Cherche Midi.